Dans cet épisode Côté scène, nous allons suivre l'histoire passionnante de Yanis Lamari, qui a fait évoluer son projet étudiant en une organisation appelée Youth ID. Partant du constat que les jeunes sont sous-représentés dans les fonctions de décision, il œuvre afin de leur donner les clés nécessaires pour qu'ils deviennent des acteurs du changement. Pour ce faire, il favorise l'accès à la mobilité internationale et travaille sur l'éducation non formelle. Yanis nous expliquera ses aventures depuis la genèse de son projet et nous partagera les conclusions de ses recherches, ainsi que les solutions concrètes qu'il y apporte grâce à Youth ID. Au travers de son parcours, vous verrez qu'il est possible de transformer une expérience personnelle lancée un peu par hasard en véritable projet professionnel.
I got 99 problems, but changing the world ain't one.
C'est possible vu qu'ils l'ont fait. Je te parle de ces gens qui ont pris la bretelle de sortie, le chemin de traverse, qui ont réinventé les codes, qui ont bousculé les business models habituels pour se créer leur propre réalité.
Aller à contre-sens pour retrouver du sens.
Ils entreprennent, ils agissent, ils ont soif d'impact positif et de liberté. Je te présente les histoires extraordinaires de ces 99 Challengers qui, a priori, avaient tout d'ordinaire. Et si ça t'inspire et que tu veux faire comme eux, je n'ai qu'une chose à te dire, vas-y, fonce. Je suis Alison Picalosa et tu écoutes 99 Challengers, le podcast.
Yanis, merci beaucoup de nous faire le plaisir de participer à ce podcast. Alors, je voulais savoir un petit peu mais qui tu es, quel est ton parcours et que tu nous parles un petit peu de ton organisation.
Bonjour à tous, merci pour l'invitation déjà et avec plaisir pour justement passer cette matinée à échanger un petit peu sur USAID. USAID, c'est un projet à l'origine, un projet étudiant qui au fur et à mesure s'est développé et s'est transformé à l'heure actuelle en une association et qui commence à employer des gens, dont moi-même. L'idée du USAID, c'était avant tout de travailler sur la participation des jeunes, et notamment leur sous-représentation. À l'origine, donc j'ai fait des études en école de commerce, mais je savais que je voulais quand même travailler dans la solidarité internationale, et notamment avec des organisations internationales. Il y a quand même eu une grande frustration qui en est née. Elles font un travail de terrain qui est très bien, même si elles sont souvent critiquées. Mais quand même, le modèle type du décideur reste masculin, type caucasien, blanc, quoi. Et souvent plus de 50 ans, voire 60 ans. Alors qu'il parle beaucoup de jeunesse, qu'il parle beaucoup d'immigration, qu'il parle beaucoup d'égalité homme-femme, qu'il parle beaucoup d'environnement et du futur. Et donc, il y a vraiment ce paradoxe qui était, notamment moi que j'ai vraiment ressenti en tant que jeune observateur de l'ONU pour tout ce qui a été conférence sur le climat, notamment à la COP21, des accords qui vont rentrer en vigueur dans 20 ou 30 ans pour le futur de notre planète, mais autour de la table on a des gens qui peut-être ne seront même pas là dans 20 ou 30 ans, quoi, qui étaient quand même assez proches de la retraite, voire dépassés certains. Et donc c'est là où avec un autre ami étudiant, on avait décidé pendant notre année de césure de réaliser un projet à la rencontre de jeunes décideurs. On voulait quand même essayer de rester dans une démarche positive, et ça reste une des philosophies du USAID, justement essayer de montrer ce qui ne va pas aux jeunes, mais aussi de les mettre en action. Nous, l'idée, c'était vraiment aussi de pousser les jeunes à s'engager, à agir. Et donc, on a décidé de montrer qu'il y avait une sous-représentation des jeunes, mais aussi aller à la rencontre de jeunes décideurs, comme il y a quand même certains cas qui ont réussi, pour essayer de mieux comprendre pourquoi eux, ils avaient réussi, alors que d'autres sont davantage bloqués. Et on avait voulu faire ça aussi dans une démarche internationale. Chez USAID, on s'appuie beaucoup aussi sur ce qui se fait ailleurs. Je pense que c'est vraiment une des richesses qu'on a à l'heure actuelle, que ce soit avec les nouvelles technologies, mais que ce soit aussi tout simplement aller à la rencontre des autres, pour essayer de comprendre si tous ces jeunes décideurs n'avaient pas des points en commun alors qu'ils vivent dans des pays, des cultures et des situations très différentes, s'il n'y avait pas quand même des grandes recommandations qu'on pouvait avoir pour avoir davantage de jeunes qui montent en compétences rapidement et puissent prendre des décisions. On a fait des pays très variés comme le Maroc, l'Algérie, Israël, la Palestine, plein de pays d'Europe, la Thaïlande, le Vietnam, Hong Kong. Donc voilà, l'idée c'était vraiment aussi d'avoir des cultures différentes et voir s'il n'y avait pas des bonnes choses autour de la jeunesse à prendre à d'autres niveaux.
Si
finalement, on a eu différents partenaires, à la fois publics et privés. En France, on a quand même cette chance d'avoir pas mal d'aides à l'engagement des jeunes qui existent. Et ça, on y reviendra plus tard. Comme c'est dommage, justement, elles sont très peu connues, ces aides à l'engagement des jeunes, qui permettent justement de financer assez facilement des projets qu'on va avoir dans d'autres pays. Ou on a la chance, tout simplement, aussi avec l'Europe, de pouvoir aussi avoir des financements sur des projets jeunesse. Et donc, on a justement ce projet étudiant pu complètement l'autofinancer et donc voyager comme ça aussi avec différents partenaires. Et derrière, certains ont voulu continuer à travailler sur les thématiques qu'on avait mis en avant et les résultats. Et donc, c'est devenu un job étudiant à côté des études. Et là, j'ai fini les études depuis un an et demi. Et je me suis mis à plein temps sur l'association et sur le projet parce qu'il y a pas mal de pistes de développement et on commence à pouvoir recruter des gens.
Et donc, le but, tu disais, c'était de un petit peu diminuer les subsides et se professionnaliser de plus en plus.
Oui, pour la partie étudiante, on va dire, on n'avait pas forcément besoin de beaucoup de financement. C'est là aussi ce qu'on remarque finalement, qu'avec peu en tant que jeune, notamment quand on est étudiant, on peut quand même réussir à faire beaucoup. Donc, même ce projet Tour du Monde, finalement, si on voit, si on devait le faire maintenant en tant que professionnel ou des choses comme ça, ça n'a vraiment rien à voir. C'est 10 fois moins, je pense, que ce qui se fait en réalité. Parce qu'on faisait beaucoup de stops, parce qu'on dormait souvent chez l'habitant, parce que ça ne vous gênait pas de manger des sandwichs, parce qu'on prenait notre temps. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et c'est une des forces de la jeunesse, je trouve. Et c'est même ça qui a rendu l'aventure aussi enrichissante, qui nous a permis de rencontrer plein de monde. Je pense qu'on a des standings moins élevés en tant que jeune, et tant mieux. J'espère même continuer à garder ça plus tard. Et avant tout, on était basé sur une rencontre humaine et pas forcément sur des conforts matériels. Par contre, maintenant, oui, donc l'idée, c'est quand même de pouvoir aussi en vivre et même plus tard de se projeter. L'idée, c'est d'avoir un projet long terme et de pouvoir aussi même faire vivre une famille dessus, des choses comme ça. Et donc, on continue à avoir beaucoup de subventions publiques, mais de plus en plus, on a aussi des prestations de services, d'ateliers qu'on vend à des acteurs de l'enseignement supérieur, que ce soit des universités, des écoles de commerce. Et on a aussi une petite partie qui vient de nos bénéficiaires sous forme de cotisation.
Et donc, quand je t'entends, ce que j'aime bien, c'est qu'on a l'impression que tout est un peu possible, qu'en fait, on lance un projet comme ça qui part d'une idée et puis finalement, on peut arriver à toute autre chose, se professionnaliser, en faire une carrière.
Oui, ça, c'est vraiment un peu le hasard des événements. C'est vrai que maintenant, dans mon discours, c'est beaucoup plus structuré qu'au début, mais c'est vrai qu'au début, on ne voyait pas forcément tous ces aboutissants et où on voulait arriver. Et même le projet a souvent finalement évolué dans sa démarche, un peu pivoté, on dirait, dans le monde entrepreneurial. Tout simplement, la première partie qui était davantage une étude de terrain, une recherche qui était essayer de comprendre des recommandations. Cette partie-là, finalement, après, a un peu changé. C'est ça qui a nourri notre expertise, pour derrière pouvoir davantage avoir des prestations de services et des ateliers qui ont été créés, mais aussi tout simplement remarquer des outils qui existaient, qui étaient peu utilisés et que maintenant on essaye de pousser davantage et d'améliorer. Et donc, tout ça, c'était pas prévu à l'initial, mais maintenant, à l'heure actuelle, USAID est assez différent de ce que c'était au tout début, qui était vraiment très voyage d'études et recherche de terrain. Maintenant, c'est vraiment très opérationnel. On accompagne minimum une cinquantaine de jeunes par an vraiment dans des programmes à l'étranger, les envois à l'étranger. On essaie vraiment d'axer beaucoup nos actions sur des jeunes avec moins d'opportunités qui parfois partent pour la première fois de France ou de leur ville grâce à nous. On essaie vraiment maintenant de plutôt mettre en avant tous ces dispositifs jeunesse qui nous ont servi pour créer notre projet, de les faire découvrir à d'autres jeunes pour qu'eux aussi puissent créer des projets. Maintenant, on veut vraiment être plutôt dans l'action. Et c'est quelque chose qui me paraissait important, de garder vraiment du terrain et un contact avec les jeunes, parce que cette question de voyage d'études était hyper intéressante. Derrière, ça a abouti à de très belles opportunités de recherche, où on a commencé à collaborer sur des programmes européens et tout ça, et c'était pas du tout prévu, ça s'est fait assez par hasard. Par contre, rapidement, on s'est dit quand même, ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir continuer à avoir pas que du théorique, mais aussi beaucoup de pratique. Et donc, vraiment, les 2/3 des actions de l'assaut de notre temps, ça reste quand même accompagner des jeunes qui ont entre 7 et 35 ans. Il y a des publics très variés. Il y en a certains où on fait des ateliers autour de l'interculturalité pour des 7-12 ans. Il y en a d'autres qui sont plutôt, on les envoie en volontariat européen. Donc, il y a un dispositif qui permet à des jeunes de partir entre 1 mois et 12 mois dans une autre assaut, dans un autre pays européen où tout est pris en charge par l'Union européenne. Et c'est ça qui est très dommage, c'est qu'on voit que tous ces dispositifs jeunesse, toutes ces aides, elles ne sont pas du tout connues. et notamment auprès des jeunes qui en auraient besoin. Et donc, il y a plein de jeunes autour de nous qui ont des années de césure où ils ne savent pas quoi faire. Et en fait, c'est plein d'énergie qui est gâchée, quoi. Et je pense que ça crée beaucoup de frustration chez ces jeunes-là qui veulent changer les choses. Et il y a des outils qui existent justement pour les engager. Et comme je dis, vraiment, tout est pris en charge. L'Union européenne paye des billets d'avion, paye de l'assurance. Le logement est déjà trouvé pour eux. Ils se retrouvent à travailler dans une asso où ils ont aussi un dédommagement pour pouvoir faire ça. Donc là, actuellement, on a deux de nos jeunes, par exemple, qui sont comme ça en Bulgarie, à Sofia. On en a aussi envoyé en Italie. Enfin, il y a plein de dispositifs. On travaille avec une cinquantaine d'outils différents qui nous permettent justement, de, en fonction de la situation du jeune, que ce soit de son âge, mais que ce soit sa situation économique, de pouvoir l'aider à créer des projets et les mettre en place.
Waouh, super. Est-ce que tu peux revenir juste, je suis curieuse de savoir un petit peu les conclusions que vous en avez tirées de votre projet étudiant. Ouais. Tu disais que voilà, c'était plus des études de terrain, vous avez découvert plein de choses, où vous essayez de faire le lien entre les jeunes de différentes nationalités. Ouais. Qu'est-ce que ça a donné ?
Donc, l'avantage de ce voyage d'études, justement, ça a été, comme je disais, parce qu'on a rencontré beaucoup de jeunes décideurs qu'on repérait justement à travers certains médias ou certains classements internationaux et aussi des rencontres parfois hasardeuses comme ça. C'est là où je dis encore, c'était vraiment hyper intéressant de faire souvent cette démarche de stop et de dormir chez l'habitant parce que parfois, on a vraiment été confronté à différents types de jeunesse et on en profitait pour faire des interviews de micro-trottoir et donc, on s'est retrouvés à la fois dans les montagnes marocaines de l'Atlas et dans des grandes villes, la même chose en Palestine, enfin dans plein d'endroits différents. Et les grandes conclusions, c'est on en avait une qui était vraiment sur la question de la définition de jeunesse même. Est-ce que les jeunes ne sont pas parfois leurs propres freins ? Et donc ça, je pense qu'en fait, dès qu'on entend, c'est peut-être aussi une construction sociale qui a été faite, mais dès qu'on entend le mot jeune, on entend un peu derrière justement en construction, en développement, un peu comme manque d'expérience. Et ça, on voit que c'est quelque chose qui est très présent, et je pense encore plus chez les jeunes femmes, parce que derrière, il y a encore d'autres choses, sur cette question de « je ne suis pas légitime parce que je suis jeune ».
Exact.
Justement, au bout d'un moment, on a un peu intériorisé ce discours de la société qui nous dit « t'es trop jeune pour comprendre ».
Ouais.
Et donc ça, c'était, je pense que c'est quelque chose vraiment de très important qu'on a rencontré chez beaucoup des jeunes décideurs qu'on a rencontrés. Beaucoup même qui disaient, mais en fait, je suis pas un jeune décideur, je suis un décideur. Je suis un chef d'entreprise, je suis pas un jeune chef d'entreprise. Finalement, mon statut est le même que les autres. Je suis pas un jeune en politique, je suis un politicien aussi. Moi aussi, finalement, mon avis compte autant. Et donc, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à travailler sur cette question de jeune. Ça reste une catégorie qui est intéressante, qu'il faut continuer, bien sûr, à creuser. Mais de un, ça cache un petit peu plein de diversité. Il y a plein de diversité et de jeunesse différentes. Et de deux, parfois, ça peut auto-limiter les jeunes dans leur développement. Sur ça aussi, un peu lié à ce point-là, c'est aussi comment les discours de la société influent sur sa jeunesse. Je pense que ça, c'est vraiment important de le comprendre, et notamment de la part de nos décideurs actuels, que finalement, ce discours parfois ambiant, qui varie en fonction des pays, dans certains pays, qui est beaucoup plus fort, qui est la jeunesse d'aujourd'hui est feignante, la jeunesse d'aujourd'hui ne veut pas travailler, la jeunesse... c'est un peu un processus autoréalisateur finalement parce que notamment au Maroc, ça nous avait beaucoup frappé de voir que beaucoup de gens finalement avaient cette notion de que la jeunesse d'aujourd'hui serait plus feignante. Mais résultat, la plupart des jeunes qu'on croisait qui étaient très loin d'être feignants, certains qui travaillaient toute la semaine, étudiaient tout le week-end, enfin ils avaient des rythmes, je dirais même trop intenses. Je pense que c'est pas ça la jeunesse, on ne devrait pas leur mettre autant de pression. Se disaient, en fait, dans tous les cas, dans mon pays, dans ma génération, il y a trop de feignants parce que c'est ce qu'ils entendaient en continu. Donc, en fait, toute cette jeunesse qui était dynamique, en fait, elle disait, dans tous les cas, je vais devoir partir de mon pays pour faire des choses. Donc, en fait, à force d'avoir ce discours-là, je pense qu'aussi, on perd les énergies des jeunes et on les décourage et parfois, on les pousse à partir à l'étranger. Et inversement, dans certains pays où on sent qu'il y a un discours, notamment qui nous avait beaucoup frappé, c'était en Israël, peut-être par rapport à des contextes qui sont un peu particuliers. Et des jeunes qui, dès 18 ans, se retrouvent à faire des services militaires de 3 ans. On avait quand même un discours très positif sur la jeunesse parce que je pense que les autres générations avaient conscience que c'était des jeunes qui, résultat, faisaient beaucoup de sacrifices. Et donc, on sentait des jeunes qui étaient quand même plus positifs sur leur futur et qui étaient aussi plus dans une démarche entrepreneuriale et qui étaient prêts à créer des choses. Et donc, je pense que ça, la question du discours de la société joue beaucoup. Une autre des conclusions qui était intéressante, et c'est cette démarche aussi d'éducation par les pairs. Je pense que dans le monde entrepreneuriat, on entend très souvent qu'il faut avoir un mentor plus âgé. On entend souvent justement qu'il y a plus d'expérience. Et c'est vrai que c'est très nécessaire. Mais beaucoup de ces jeunes-là aussi avaient un réseau autour d'eux d'autres jeunes similaires. Parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est, je ne sais pas si je dirais égocentrique, mais pourquoi pas, si c'est positif, c'est si lui, il l'a fait, moi aussi, je peux. Ou si elle l'a fait, moi aussi, je peux. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important dans cette dynamique d'éducation par les pairs, de voir que, à la fois, ça nous redonne confiance, nous, en tant que jeunes, bah, de voir qu'on peut aussi faire apprendre des choses aux autres. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir 50 ans de carrière pour commencer à transmettre des connaissances. Et aussi, il y a un côté qui est, bah, si lui, il l'a fait, moi aussi, je vais les faire. Et ça, ça nous avait beaucoup frappé, justement, un jeune à Hong Kong qui était conseiller maintenant de la paire d'Hong Kong sur les questions jeunesse, qui gérait une structure avec une centaine de bénévoles, qui avait quand même beaucoup de responsabilités à 17 ans. Et en fait, il avait créé sa structure à 14 ans parce qu'il avait participé à un summer camp aux États-Unis où un des intervenants, c'était un garçon de 12 ans qui avait créé son association pour planter des arbres. Et donc lui, en revenant chez lui, auprès de ses parents, il a dit finalement, ce gamin, il a 12 ans, il a déjà créé des choses. Moi, j'ai 14 ans, j'ai rien fait. Moi aussi, je veux faire des choses. Et donc, il y avait vraiment un côté presque compétitif, on peut dire, mais compétitif positif. Et je pense que c'est vraiment ça aussi, il y a un peu une inspiration qui vient d'éducation par les pairs.
Oui, tout à fait.
Parce que c'est un point important aussi.
Oui, oui. Et puis, voilà, de s'accorder le droit de rêver, finalement, je pense que c'est quelque chose qu'on enlève beaucoup trop tôt, enfin, qu'on ne devrait pas enlever du tout aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une évolution quand même à ce niveau-là, vraiment une rupture entre les nouvelles générations et celles d'avant. Et c'est peut-être pour ça qu'il se passe des choses assez curieuses en ce moment. C'est que j'ai l'impression que la génération Y et Z sont en décalage total avec les générations d'avant, la génération X et les baby boomers, qui finalement, comme tu le disais, sont toujours au pouvoir. C'est quand même eux qui prennent la majorité des décisions encore aujourd'hui. Et ces jeunes, j'ai l'impression qu'ils ont un autre niveau de conscience, ils ont quand même des intérêts totalement différents. Il y a quand même de plus en plus de jeunes qui ont envie d'autre chose, qui ont envie de finalement d'inventer leur réalité. Et donc, enfin, moi, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que réellement, il faut absolument pousser, je veux dire, les jeunes dans tout ce qui existe déjà, dans toutes les organisations, que ce soit en entreprise ou bien en politique? Est-ce qu'on doit les pousser là ou est-ce que finalement ils ne sont pas simplement en train de se construire leur propre réalité à eux en se disant bah, tant pis, si on ne me laisse pas rentrer là, moi je vais faire mon truc, ma propre réalisation, je veux dire. Quel est ton avis sur la question?
Bah, sur cette question-là, c'est vrai que je pense qu'il y a un peu un basculement et des changements qui sont en train de se faire au niveau des envies des nouvelles générations et tant mieux justement qu'ils veulent. Bah, avoir des métiers aussi où ils comprennent c'est quoi les impacts de leur métier et avoir des métiers avec du sens. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important et qu'on voit de plus en plus. Donc, c'est sûr que les entreprises vont devoir s'adapter à ce changement-là et tant mieux comme c'est nécessaire, je pense. Après, je pense que finalement, il n'y aura pas forcément une réponse à cette question-là parce que je pense qu'on va avoir peut-être, et tant mieux, des carrières de plus en plus alternatives, si je peux dire, avec des périodes où on testera peut-être des projets, nos projets. À d'autres moments, bah, on rentrera dans un schéma plus classique. À d'autres moments, on rejoindra des amis qui ont des projets. Et je sais que c'est quelque chose déjà qui angoisse beaucoup de jeunes ou certains parents de jeunes, justement. Et je pense que c'est là où il faut justement donner des compétences clés aux nouvelles générations qui sont cette capacité d'adaptation. Ça, c'était justement un des points très forts sur tous les jeunes décideurs aussi qu'on avait rencontrés. Bah, des gens qui avaient réussi à rapidement s'adapter. C'est pour ça qu'au sein de USAID, nous, on plaide beaucoup aussi pour la mobilité, notamment internationale, même si ça pose des questions écologiques. Mais bon, après, si c'est partir 6 mois à l'étranger pour avoir une expérience, je pense que ça n'a pas de prix. C'est vraiment important, quoi. Et ça devrait être même une opportunité pour tous les jeunes. À l'heure actuelle, on a certains jeunes qui sont vraiment bloqués, qui ont beaucoup moins d'opportunités, notamment sur cette ouverture sur le monde, alors que c'est hyper important, je pense, pour développer ces compétences de capacité d'adaptation, de résilience, qui leur permettra d'avoir une vision plus positive de leur futur, même si il sera irrégulier, même s'il y aura des changements, des évolutions. Ça, je pense que c'est vraiment des compétences qui sont importantes à développer parce que c'est un peu inévitable. Je pense que le côté classique qui est un métier toute une vie, bah, ça sera pas forcément possible pour nos générations. Et après, je suis pas sûr en plus que nos générations en ont envie aussi.
Oui, tout à fait. Oui. Oui, d'où le fait un petit peu de pouvoir se construire en se disant, bah, voilà, tout est possible. je mets un petit peu les pièces que j'ai envie de mettre dans mon puzzle et j'essaie de composer avec ça, en sachant que les métiers d'aujourd'hui ne seront pas les métiers de demain, en fait.
Exactement, oui, c'est complètement ça. Après, d'où l'importance aussi de commencer tôt quand même. C'est pour ça que moi, je trouve que le monde associatif est une super opportunité de formation concrète de la jeunesse. Beaucoup des acteurs du monde associatif, justement, sont beaucoup sur ce qu'ils appellent de l'éducation non formelle ou de l'éducation populaire, pour dire que, bah oui, on a une éducation qui est théorique, qui est en salle de classe, qui est nécessaire. Mais en fait, là où on va apprendre beaucoup de compétences essentielles en termes de savoir-être, en termes de savoir-faire, bah, ça se fait à côté, dans des activités extrascolaires, que ça soit le sport, la musique, mais aussi dans des engagements citoyens. Et c'est ça qu'il faut vraiment essayer de développer et qui permet d'avoir des jeunes plus engagés pour demain, mais aussi qui ont des compétences sur leurs compétences futures et sur comment appréhender les évolutions qui vont arriver.
Oui, tout à fait. Il y a aussi un point très, très important, et enfin, évidemment, tout est lié, le fait de l'évolution du travail, c'est les technologies. Et donc, toujours dans cette idée de ces jeunes qui se réinventent, enfin, qui s'inventent et qui se réinventent, oui, je suis frappée de voir mais comment ils s'approprient les réseaux sociaux. Et ça aussi, c'est souvent mal compris par les générations plus anciennes. Moi, je trouve ça vraiment super quand je vois des petites nanas qui expliquent leur tuto make-up. Elles ont 15 ans et elles ont déjà tout compris à l'art de l'influence, au marketing. Elles te font des vidéos, mais super pro. Toi, t'as aucune idée de comment on atteint ce résultat. Moi, je trouve ça génial et je trouve que c'est juste pas assez valorisé, en fait.
Ouais, complètement. En plus, ça reste, comme tu dis, des métiers du futur et je pense que c'est important. Enfin, ça peut donner aussi de l'espoir, on va dire, à certains jeunes qui sont un petit peu plus bloqués dans leurs horizons, quoi, en fait. Qui, très tôt, on envoie vers des filières très professionnalisantes et finalement, eux aussi pourraient avoir le droit de réinventer leur métier à travers le numérique. Je vais donner l'exemple du make-up ou d'esthéticienne ou de coiffeur ou des choses comme ça. C'est finalement, il y a plein de gens, on va dire, qui font des études d'enseignement supérieur, qui essaient de révolutionner ces métiers à travers les nouvelles technologies. Et ça serait aussi intéressant de pouvoir donner des compétences à ces jeunes eux-mêmes pour qu'ils puissent aussi, eux, en ayant étudié et en ayant eu ce qu'on appelle des filières professionnalisantes, l'opportunité de changer leur métier.
Moi, je voulais revenir aussi sur l'éducation, parce que tu en parlais. Je voulais savoir du coup un petit peu comment ça se passe vraiment avec les plus jeunes aujourd'hui. Est-ce que malgré tout, il y a un changement dans l'éducation classique ou est-ce que, comme tu le dis, il faut beaucoup aller voir sur les à côté? Et si tu pouvais un petit peu nous parler justement de tous les leviers que tu utilises au niveau des subsides et des programmes européens, par exemple, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce niveau-là?
Sur la première partie de la question, sur l'évolution de l'éducation, pour être honnête, je ne sais pas si j'ai suffisamment de recul. Je ne sais pas vraiment quelle était l'éducation d'avant, si elle a vraiment beaucoup évolué. Après, par contre, dès maintenant, je peux dire par contre ce qui, moi, me paraît ne pas aller dans l'éducation que je vois aujourd'hui en tout cas, ce qui nous semble compliqué. On est quand même, nous, très souvent frappés avec les autres jeunes de USAID dans les actions qu'on fait sur la pression que les jeunes se mettent aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose, en effet, qui est pas bon pour leur développement, mais aussi même tout simplement pour le futur de la société. Comme tu disais, on a une jeunesse qui parfois, là encore, je pense qu'il faut aussi faire des distinctions en fonction d'où vient cette jeunesse, mais en tout cas, on a aussi une partie de cette jeunesse qui, par contre, elle est très frustrée et très résignée. Et en fait, très rapidement, ils ne croient plus du tout à cette question de méritocratie ou à cette question de... Eux aussi, ils pourront faire le métier de leur rêve. On a certains jeunes qui viennent de certains milieux qui très rapidement, par rapport à leur origine ou par rapport à leur situation sociale, s'empêchent ou on les empêche de rêver en tout cas. Très rapidement, ils te disent « dans tous les cas, ça ne sera pas fait pour moi ». Et là, je pense que c'est hyper dangereux pour la construction de la société de demain. Ou des jeunes qui, résultat, sont hyper stressés par rapport à leur réussite scolaire, à qui on en demande toujours plus. Et nous, on n'a aucun souci… Même si ça va pas à certains parents, à certains jeunes qu'on suit, on leur dit, en gros, je suis pas sûr que ça vaut la peine d'avoir 18 à l'école, contente-toi d'un 14 et fais d'autres choses à côté. C'est là où tu te développeras en tant que personne et tu développeras des compétences et finalement, l'entreprise, quand elle te recrutera, personne va te demander tes notes à l'école, quoi. Ouais. Ils te demanderont plutôt tes compétences concrètes, c'est quoi que tu as développé. Et ça, je pense que C'est dommage qu'on ait un système scolaire et un système de société qui met de plus en plus la pression sur la réussite intellectuelle, alors qu'en plus, c'est des systèmes qui sont parfois très formatés. Et donc, on a des gamins qui sont parfois hyper intelligents, mais pas scolairement, ou en tout cas sur d'autres compétences. Et c'est là où je pense que cette question d'éducation non formelle est très importante, parce que ça permet de développer des choses qui sont plus importantes, d'après moi, que certaines compétences scolaires, qui sont le développement de l'esprit critique, la question de l'empathie. Et c'est ça, en fait, qui nous permettra de construire vraiment une société de demain. Et donc, nous, c'est vraiment les leviers qu'on essaie d'utiliser. Et ça passe beaucoup par des ateliers qui sont un peu plus interactifs, des ateliers où on permet aux jeunes de s'exprimer. Ça, c'est quelque chose qui nous frappe aussi. Et bah, nous, c'est pour ça qu'on a créé USADI. Il y a quand même peu de lieux et pas assez d'expression pour la jeunesse. On a des jeunes qui ne trouvent pas leur place dans l'espace public, qui ne savent pas où donner leurs avis, à part sur les réseaux sociaux, mais là où il faudrait, dans ce cas-là, peut-être pouvoir davantage développer leur esprit critique pour être sûr qu'il n'y ait pas justement juste une haine en ligne qui se répande. Donc, c'est plein de compétences qui sont vraiment importantes, ce genre d'axe. Permettent aussi aux jeunes justement de commencer à travailler en équipe, et notamment dans des équipes avec de la vraie mixité sociale et interculturelle. On a aussi des systèmes scolaires à l'heure actuelle qui ne créent pas suffisamment de mixité sociale, que ça soit géographique, mais que ça soit aussi en termes de réussite dans l'enseignement supérieur. En tout cas, nous, en France, ça ne représente pas du tout la mixité de la France, ne serait-ce qu'en couleur de peau. C'est quelque chose qui est quand même très frappant, des choses comme ça. Et ce monde associatif, et nous, les ateliers qu'on utilise, c'est aussi un peu le but. Permettre à des jeunes de divers milieux de s'exprimer, d'apprendre à se connaître, de déconstruire certains stéréotypes, de développer des compétences très concrètes avec l'utilisation des réseaux sociaux pour les campagnes en ligne, avec la question de la gestion de projet. Donc, pour répondre à ta question sur les outils européens très concrets qu'on utilise, on travaille beaucoup avec Erasmus+, qui est un programme de mobilité des jeunes et des acteurs jeunesse. Et en fait, souvent, on le confond avec Erasmus étudiant, tout simplement. Mais en fait, dans Erasmus+, il y a une cinquantaine, voire une centaine d'opportunités différentes. Certaines qui sont sur des mobilités courtes, qui peuvent être un week-end, qui peuvent être une semaine. Certains qui sont pour des mobilités de membres associatifs ou de professeurs. Enfin, il y a plein de choses très différentes. Et donc, on essaie de travailler beaucoup, nous, sur ce point-là avec les jeunes. Et donc, très souvent, on emmène des groupes de 6-7 jeunes dans un autre pays européen où ils se retrouvent à 50 jeunes de 6 ou 7 pays différents à travailler pendant une semaine sur une thématique de société. Et donc là, il y a vraiment un échange interculturel qui se crée. Il y a vraiment aussi des compétences en communication qui se développent, de la timidité qui disparaît, une meilleure maîtrise des langues. Donc, plein de choses qui sont assez importantes, je pense, pour construire l'Europe de demain. On travaille aussi beaucoup avec le volontariat européen, qui maintenant s'appelle le CES, qui lui permet justement à des jeunes de partir entre 1 mois et 12 mois sur une mobilité longue, et donc faire un stage dans une autre asso, ou dans une entreprise sociale, ou dans une institution publique. Maintenant, même en entreprise aussi, il y en a beaucoup qui font ça sous forme apprenti. Et donc là aussi, ça donne des opportunités à des jeunes à qui on ne propose pas souvent cette opportunité. Donc ça peut être des garagistes, des jeunes coiffeurs, enfin, il y a plein de choses très différentes. Donc ça, il y a vraiment des centaines d'outils différents comme ça qui existent, et qui permettent vraiment aux jeunes d'expérimenter la chose, quoi. Ils sont vraiment acteurs de leur éducation. C'est un peu en partie le but de l'éducation non formelle, c'est justement leur permettre eux-mêmes d'évaluer et d'adapter leur éducation.
Et quel est ton avis sur l'évolution de l'importance du diplôme à l'avenir? Est-ce que tu penses que ça va décliner ou pas?
À ce niveau-là, je pense que ça va aussi beaucoup dépendre des acteurs du monde de l'entreprise. Je pense qu'il y a quand même une vision de plus en plus où on essaye de valoriser aussi d'autres compétences et avoir aussi une certaine ouverture sur d'autres milieux. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup au sein de l'enseignement supérieur, tout simplement, qui est de plus en plus des filières alternatives qui permettent de participer à des programmes en ciblant certains quartiers prioritaires de la ville, en acceptant que certaines personnes ne passent pas par un concours, mais passent sur dossier parce qu'ils venaient d'une école de musique ou enfin... Je pense qu'il y a quand même de plus en plus cette envie, que ça soit de la part des acteurs éducatifs de l'enseignement supérieur ou du monde privé, d'avoir une certaine diversité de profils, parce qu'il y a quand même une innovation qui vient aussi de ces profils-là. Et tant mieux, il y en a quand même de plus en plus qui comprennent que c'est une richesse et que ça permet justement de changer les choses. Après, ça demande souvent un peu d'adaptation et ça demande souvent d'autres référentiels communs. Donc, on travaille beaucoup avec certains chercheurs ou programmes de recherche européens. Et donc, il y a toute cette question de comment on valorise les acquis de compétences, justement, qu'on développe en dehors du système scolaire, sans diplôme. Parce que certaines personnes qui sont engagées pendant 2 ans sur certains projets que nous, on met en place, comme je disais, où on les envoie à l'étranger, en gros, ces personnes-là, très clairement, ils ont développé des vraies compétences en termes de gestion de projet, en termes de recherche de financement, en termes de communication sur les réseaux sociaux. Donc, ils n'ont pas appris ça à l'école, mais ils ont appris parce que pendant 1 an, ils ont fait des campagnes en ligne, parce qu'ils ont rencontré des dizaines de bourses différentes et ils ont dû convaincre pour récolter l'argent, des choses comme ça. Et donc, comment valoriser ces compétences? Comment trouver des référentiels communs? Donc, ça, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de programmes dans lesquels on est impliqué qui travaillent de plus en plus sur cette question-là pour, si ce n'est pas des diplômes, en tout cas, avoir des, ce qu'ils appellent parfois des badges ou des certifications qui permettent quand même de valoriser les compétences qu'on développe en dehors du système scolaire.
Oui, tout à fait. Et aussi faire prendre conscience aux jeunes qu'ils doivent batailler pour valoriser ça sur leur CV et puis être conscient qu'ils ont ces acquis et qu'ils peuvent s'en servir quoi qu'ils fassent en fait.
Ouais, ça c'est vraiment un des enjeux hyper importants, justement aussi faire prendre conscience aux jeunes eux-mêmes des compétences qu'ils développent et être capable de les identifier. Et ça, en effet, il y a beaucoup de jeunes qui ont parfois des super parcours, mais qui ont du mal après à transformer ça en compétences, notamment que le monde de l'entreprise recherche. Il y a vraiment en fait aussi une inadéquation à l'heure actuelle entre même parfois des jeunes qui sortent avec des diplômes et donc qui ont développé des compétences, mais qui n'arrivent pas à les exprimer ou à les expliquer, ou en tout cas à les transformer sur des compétences que recherche le monde de l'entreprise.
Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur les ateliers que tu proposes en entreprise ou ce que tu vas enseigner dans les écoles de commerce.
Tintin, suspense. 99 Challengers côté scène, c'est fini. Tu veux la suite et tout savoir au sujet des coulisses de notre invité? Alors, rendez-vous dans le prochain épisode. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à soutenir 99 Challengers en diffusant le podcast autour de toi, en laissant des commentaires ainsi qu'une pluie d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. N'hésite pas non plus à me suggérer des invités. Pour suivre l'actualité de 99 Challengers, rendez-vous sur le compte Instagram, Facebook et sur le site internet 99challengers.com. À bientôt.